Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 19 avril 2024. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques, et oui, que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez eu une belle semaine. Moi, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai pas mal alterné. J'ai recommencé à jouer. J'ai commencé à jouer, hein? À jouer à des jeux vidéo sur Twitch. Je diffuse sur Twitch. Je m'amuse. Dans le fond, c'est le côté technologique, tout ça, d'apprendre comment ça fonctionne, tout ça. Mais je suis pas un gamer, un grand joueur, hein? Non, vraiment pas. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de courage et beaucoup de dérision quand on commence dans ce domaine-là. Mais je vois les personnes aller là-dessus, c'est quand même incroyable là, ce qui se fait aujourd'hui. Et j'écoute beaucoup, beaucoup de jeux vidéo sur Twitch. C'est, pour moi, c'est comme écouter une série ou écouter un film. J'adore ça. Surtout les choses là, qui font peur, comme des choses nocturnes, des terreurs nocturnes, des choses comme ça. J'adore ça simplement. Hey, on commence ça tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! Windows 11, Microsoft va simplifier la gestion des appareils connectés. Bien, savez-vous lequel de vos appareils sont connectés à votre compte Microsoft? Sans doute pas. Car pour prendre connaissance de cette information, bien, il fallait jusqu'à maintenant se connecter à son compte Microsoft, puis se rendre dans les paramètres de celui-ci pour obtenir la liste. Mais les choses devraient très rapidement évoluer dans une prochaine mise à jour du système d'exploitation de Microsoft. L'entreprise de Redmond est en effet en train de tester une page dédiée à la gestion des appareils liés à votre compte Microsoft, PC et Xbox directement depuis les paramètres de Windows 11. Cette nouvelle page de paramètres de Windows 11 est pour l'heure en cours de test auprès d'une poignée de membres insider dans le canal bêta. C'est ce qu'a révélé Phantom Ocean Tree, un leaker désormais habitué à décortiquer les builds de Windows 11 pour y dénicher les nouveautés à venir. Sur son compte X, il a partagé des captures d'écran de ce à quoi ressemblera cette page. Celle-ci affiche la liste de tous les appareils connectés au compte Microsoft, un système similaire à celui déjà utilisé par Apple sur macOS. En plus du type d'appareil connecté, bon, PC, console, Xbox, etc., cette nouvelle page de paramètres affiche certaines informations détaillées, comme la quantité de mémoire, le type de processeur ou encore le numéro de série de l'appareil. Pour l'instant, en cliquant sur l'un des appareils affichés sur cette liste, eh bien Windows 11 renvoie automatiquement vers la page web dédiée à la gestion de votre compte Microsoft sur laquelle une section appareils est proposée. Bien qu'elle ne soit pour l'heure pas encore activée chez tous les membres Insider, eh bien il est possible de forcer l'activation de cette nouvelle page de paramètres de Windows 11 avec l'utilitaire Vive Tools. Vous allez voir dans l'article, il y a une commande Vive Tool Enable ID avec des chiffres qui vont vous permettre d'activer cette paramétrisation. La date de déploiement de cette nouvelle page de paramètres dans Windows 11 n'est pas pour l'instant connue. Elle devrait néanmoins arriver assez rapidement en version stable chez tous les utilisateurs, celle-ci étant testée dans le canal bêta de Windows 11. Réparer vous-même votre iPhone va devenir un peu plus simple. J'aurais pas le courage de faire ça. Après l'avoir combattu bec et ongle pendant des années, Apple a finalement embrassé le droit à la réparation en 2022 lors du lancement de sa boutique de réparation en libre-service. Mais en imposant des contraintes très fortes et des verrous logiciels, le constructeur fait l'objet de nombreuses critiques. La sérialisation des pièces détachées en particulier a même conduit le parquet de Paris à ouvrir une enquête. Autre changement très important, Apple autorise également l'installation de pièces détachées déjà utilisées provenant d'un ancien iPhone, par exemple. Et je cite, « Les pièces Apple authentiques de seconde main bénéficieront désormais de l'intégralité des fonctionnalités et de la sécurité garantie par l'étalonnage d'origine en usine, tout comme les pièces Apple authentiques neuves », explique le constructeur. Et cela concerne également les composants critiques basiques comme le Touch ID et le Face ID. Apple doit s'assurer de l'innocuité de ces pièces détachées, ce qui sera réalisé par un processus d'appairage à même l'appareil une fois réparé. Tous les futurs iPhone prendront en charge des capteurs biométriques de seconde main. Pour commencer, le constructeur va autoriser les iPhone 15 à recevoir des pièces détachées provenant d'autres iPhone 15. Enfin, pour être sûr qu'un iPhone volé ne se retrouve pas vendu sous forme de pièces détachées, Apple étend le verrouillage d'activation aux composants. Cette fonction permet déjà de bloquer l'utilisation d'un iPhone volé. Désormais, si un smartphone en réparation détecte que des composants pris en charge proviennent d'un autre appareil dont l'activation a été bloquée en mode perdu, alors les capacités d'étalonnage des pièces seront restreintes. Et c'est plutôt handicapant car cette restriction empêche le bon fonctionnement du terminal. Dans un souci de transparence, le panneau d'information dans les réglages d'iOS indiquera la provenance des pièces détachées. Ces mesures seront mises en place cet automne. La puce M4 d'Apple dès la fin de cette année. L'avènement explosif de l'intelligence artificielle générative a pris Apple par surprise. Le constructeur de Cupertino n'apprécie pas de se faire dicter son agenda technologique, comme on l'a vu avec l'intégration de l'USB-C dans l'iPhone, exigée bien sûr par l'Union européenne. Et actuellement, il doit mettre les bouchées doubles pour rattraper le retard pris sur l'IA générative. iOS 18 devrait ainsi intégrer de nombreuses fonctions infusées à l'IA, que ce soit dans Safari ou ailleurs. Il n'y a pas que le logiciel. Pour revenir dans la course, Apple doit aussi doper le matériel, et en particulier son silicium, pour accélérer encore le traitement en local des tâches d'IA générative. La puce M4 qu'Apple développe dans un secret plus ou moins relatif devrait mettre en avant ses capacités IA. Selon le fouineur de Bloomberg, trois variantes de la puce feraient leur entrée au catalogue. La M4 de base, nom de code Donen, une MK plus puissante, M4 Pro peut-être, son nom de code Brava, et un haut de gamme qui pourrait être la M4 Max, la Hydra. Ces puces devraient équiper rapidement les Mac, à commencer par l'iMac. Le tout-en-un, qui a eu droit à une puce M3 il y a 5 mois, devrait être le premier de la gamme à fonctionner avec une puce M4, croit savoir Mark Gurman de Bloomberg. La sortie serait prévue d'ici la fin de cette année. Oh, suivront rapidement les MacBook Pro 14 pouces d'entrée de gamme, puis les MacBook Pro 14 et 16 pouces haut de gamme et le Mac Mini dans ce qui pourrait être un tir groupé début 2025. Au printemps prochain, les MacBook Air 13 et 15 pouces intégreraient eux aussi une M4. Le Mac Studio devrait suivre dans le courant de l'été. Et enfin, le Mac Pro fin 2025. Pour le studio, Apple testerait une puce M3 plus puissante, peut-être une M3 Ultra qui n'existe pas à l'heure actuelle, ainsi qu'un modèle avec une M4 Hydra. La firme à la pomme envisagerait également d'atteindre 512 gigaoctets de mémoire partagée dans ses Macs de bureaux les plus puissants, sachant qu'on peut aller au-delà de 192 gigaoctets actuellement. Mais gare au prix! Réseau localisé Android, Google confirme que de trouver un smartphone éteint ne sera pas une exclusivité du Pixel 8. Après avoir activé son réseau localisé Mon appareil sur une poignée d'appareils ces derniers jours, Google a appuyé sur le gros bouton vert pour tous les terminaux Android, aux États-Unis et au Canada dans un premier temps. Le reste du monde viendra par la suite. En bonus pour les Pixel 8 et 8 Pro, les utilisateurs de ces smartphones pourront remettre la main dessus même éteint et quand ils n'ont plus de batterie. Ce réseau, présenté en mai dernier durant l'édition 2023 de la Google I/O, transforme chaque smartphone et tablette Android en relais Bluetooth, qui formera à terme une toile composée de plus d'un milliard d'appareils. Si cela vous rappelle quelque chose, eh bien rien de plus normal. C'est une technologie déjà éprouvée par Apple pour son propre réseau localisé. Les utilisateurs pourront localiser un smartphone ou une tablette Android perdue, même quand le terminal est hors connexion, à l'aide de l'application localisée mon appareil. Elle pourra le faire sonner et donnera même des indications visuelles vers son emplacement exact, ce qui implique d'avoir un deuxième appareil pas perdu entre les mains. À partir du mois prochain, cette même application sera aussi localiser les trackers Chipolo et Peeble Bee compatibles avec le réseau Localiser mon appareil. Ces balises pourront également être détectées par le nouveau système d'alerte développé en commun par Google et par Apple. Il s'agit de prévenir l'utilisateur de la présence d'un mouchard inconnu, y compris un AirTag, et potentiellement indésirable à proximité. Hein, les méchants là, qui cachent ça dans vos sacs. En janvier 2023, la rumeur courait du développement d'une balise dotée d'un haut-parleur, du Bluetooth LE et d'une puce ultra-wideband pour la localisation précise. Ce produit, nom de code Grogu, pourrait bien être présenté rapidement maintenant que tout le réseau est en place, peut-être pour la prochaine Google I.O. Les balises pourront même être partagées avec des amis et la famille, là aussi directement depuis l'app Localiser mon appareil, pratique pour partager les clés d'un appartement ou la télécommande de la télé. Google assure par ailleurs que son réseau localisé a été conçu pour respecter la confidentialité. Les données de localisation sont chiffrées de bout en bout, tout comme les rapports de données de localisation agrégés. Une première assure le moteur de recherche. Et vous irez voir dans l'article, il y a une adresse, il y a une explication technique de ces mesures de protection. Google ajoute un puissant outil de création vidéo. Les présentations sont assez courantes en entreprise, que ce soit pour accueillir un nouveau collaborateur, présenter un projet ou encore pour faire un bilan. La plupart des gens, pour animer ces présentations, optent pour le bon vieux format PowerPoint. Mais grâce au nouvel outil que Google ajoute à sa suite de productivité, il sera aussi plus simple pour les employés de générer des vidéos. La firme vient d'annoncer une série de nouveautés pour Google Workspace, sa suite de productivité pour les entreprises. Et parmi ces nouveautés, il y a Vids. Selon les explications de Google, Vids va s'ajouter aux produits existants de Workspace comme Docs, Sheets, Slides, etc. Et l'objectif de la firme est que grâce à ce nouvel outil, n'importe qui puisse devenir un bon storyteller en utilisant le format vidéo. Dans son annonce, Google met en avant l'interface intuitive de Vids, mais surtout le fait que celui-ci est propulsé par l'intelligence artificielle. Quelle surprise! Et je cite, « Vids est votre assistant vidéo d'écriture, de production et de montage tout en un. Il peut générer un storyboard que vous pouvez facilement modifier et après avoir choisi un style, il rassemble votre premier brouillon avec des scènes suggérées à partir de vidéos, d'images, de musique, de fond, explique Google. De plus, Vids inclut aussi des voix off qui vous permettent de faire passer vos messages si vous ne souhaitez pas utiliser votre propre voix. En tout cas, la cible de Google est très précise, les employés en entreprise. En revanche, pour le moment, on ne sait pas exactement quand Vids sera disponible. Dans la description de sa vidéo YouTube, Google indique seulement que l'outil arrive bientôt chez les utilisateurs de son produit Gemini for Google Workspace. En tout cas, à l'instar de Microsoft, Google est en train d'intégrer l'IA générative partout sur son écosystème et ses outils de productivité n'y échappent pas. Par exemple, pour les courriels, Google développe un nouvel assistant basé sur l'IA générative qui aide à répondre aux messages. Et celui-ci est également en train d'intégrer une fonctionnalité qui résume les courriels de Gmail pour l'utilisateur. Google annonce Axion, son premier processeur basé sur ARM. Google annonce Axion, A-X-I-O-N, pour son tout premier processeur qui s'appuie sur le Neoverse V2 d'ARM et qui va équiper les data centers, les centres de données. C'est sa réponse aux puces que l'on retrouve dans les data centers d'Amazon. Selon Google, les performances d'Axion sont supérieures de 30% à celles de ses outils à usage général et plus rapide basés sur la technologie d'ARM dans le cloud et de 50% plus rapide à celles des machines virtuelles les plus récentes et comparables basées sur la technologie X86. La société affirme également que son processeur est 60% plus économe en énergie que ses mêmes machines virtuelles basées sur X86. Google utilise déjà Axion dans des services tels que Bigtable, la plateforme pour les publicités sur YouTube, le moteur de Google Earth. Il l'étendra à d'autres services à l'avenir. L'arrivée d'Axion va mettre Google en concurrence avec Amazon, qui a dominé le marché des processeurs basés sur ARM pour les le centre de données. L'activité cloud de l'entreprise Amazon Web Services a lancé le processeur Graviton en 2018, puis les deuxième et troisième itérations au cours des deux années suivantes. Pour sa part, Nvidia a sorti son premier processeur basé sur ARM pour les data centers en 2021. Appelé Grace, et des entreprises comme Ampère ont également fait des progrès dans ce domaine. Google connaît déjà le domaine des processeurs puisque ses smartphones de Pixel embarquent les puces Tensor. Le premier modèle a vu le jour avec les Pixel 6 et 6 Pro. Depuis, chaque nouveau smartphone haut de gamme de la société a eu le droit à une version améliorée. La retouche magique de Google Photos va être disponible à tous les utilisateurs Android et iOS. Les fonctions liées à la retouche magique vont bel et bien être proposées sans frais supplémentaires à tous les utilisateurs de Google Photos sur Android comme sur iOS à compter du 15 mai 2024. Dans le détail, ce sont les fonctions anti-flou, le mode lumière et la gomme magique qui seront accessibles sans frais supplémentaires. Par ailleurs, les fonctions du Magic Editor, une exclusivité des Pixel 8 et 8 Pro, vont être proposées à tous les modèles de Pixel sans restriction. Les utilisateurs Android et iOS auront droit à 10 sauvegardes Magic Editor par mois. Pour aller au-delà de cette limite, il faut souscrire à un abonnement Google One 2 Teraoctets ou plus. Mais c'est grâce au démontage du fichier APK de la dernière version de Google Photos que les personnes d'Android Authority ont découvert une information autour des outils de retouche magique de l'application. Cette dernière, initialement exclusive au smartphone Pixel, a ensuite été proposée à tous les abonnés Google One. Dans le code de la dernière itération de Google Photos, on peut voir la mention d'un système de sauvegarde limité pour la retouche magique. Cela permettrait probablement aux utilisateurs d'éditer et d'enregistrer leurs photos en utilisant l'outil, mais un nombre limité de fois chaque mois. Une fois cette limite atteinte, l'application pourrait suggérer de passer un abonnement Google One payant. L'autre découverte de ce fichier APK de Google Photos concerne la fonctionnalité de compression des médias déjà stockés. Les 15 gigaoctets de stockage offerts par Google Photos se remplissent rapidement. Et l'application propose déjà de régler la qualité de sauvegarde des photos et vidéos en qualité d'origine ou économiseur d'espace. Mais une autre fonction de compression de photos et de vidéos est également disponible sur la version web de l'application dans certains pays uniquement et pourrait arriver sur mobile. Cette dernière permet d'économiser encore plus de stockage, mais ne peut être effectuée qu'une fois par jour. De plus, les fichiers sont définitivement compressés. Ils ne peuvent ensuite plus revenir à leur taille d'origine. Une fonctionnalité à manier avec précaution, donc. Le code Google Photos précise par ailleurs que cela peut prendre plusieurs jours en fonction de la taille de votre bibliothèque. Instagram va flouter les photos dénudées pour les mineurs. Instagram et Facebook sont dans le banc des accusés depuis octobre dernier. 41 États américains ont porté plainte contre les deux réseaux sociaux pour atteinte à la santé mentale des plus jeunes. Sans attendre, Meta avait pris la mesure du problème avec une série de mesures et la dernière en date consiste à flouter les photos dénudées dans les messages privés d'Instagram reçus par les mineurs. Meta va activer cette fonction par défaut pour les moins de 18 ans et encouragera les adultes à l'activer. À la réception d'une photo dénudée, elle sera automatiquement floutée et s'accompagnera d'un avertissement. L'alerte précisera que l'utilisateur ne doit ressentir aucune pression pour répondre à l'interlocuteur avant d'envoyer l'image, qu'il a toujours la possibilité de le bloquer, de signaler la discussion. L'application affichera également une alerte lors de l'envoi de photos dénudées lorsque l'option est active. Il s'agit de rappeler à l'utilisateur d'être prudent. Si on change d'avis, il est aussi possible de ne plus envoyer la photo. Par ailleurs, une personne qui transfère un nude recevra une notification qui lui suggérant de bien réfléchir avant de partager l'image. Le floutage est réalisé à même l'appareil en local et fonctionne avec le chiffrement de bout en bout. Meta n'a donc pas accès aux images à moins d'un signalement. Laissez-moi douter, mais cette fonction sera testée dans les prochaines semaines avec un déploiement plus large dans les prochains mois. Dans ce domaine, Meta se traîne derrière iMessage, la plateforme de messagerie d'Apple, qui a intégré cette fonction de floutage en local depuis iOS 16. Elle a d'ailleurs été étendue en novembre dernier.
Vous écoutez le rendez-vous tech d'Audiophile.
Messenger reçoit 4 nouvelles fonctionnalités très attendues. Meta a annoncé une série de nouvelles fonctionnalités multimédia qui devraient rendre l'expérience de la messagerie plus riche et plus efficace. En tête de liste de cette mise à jour figure la possibilité tant attendue de créer des albums partagés au sein des chats de groupe de Messenger. Désormais, au lieu d'avoir des photos et des vidéos éparpillées dans les conversations, vous pouvez les organiser proprement dans des albums collaboratifs accessibles à tous les participants de la discussion. Pour créer un album, il suffit de sélectionner plusieurs éléments multimédia dans le compositeur et d'appuyer sur « Créer un album » ou d'appuyer longuement sur un partage existant. Tous les membres du groupe peuvent alors visualiser, télécharger, ajouter ou supprimer du contenu de l'album en le localisant sous le nouveau bouton « Média ». Vous pourrez suivre le contenu du dossier en tapant sur le nom du groupe, comme vous pouvez le faire avec d'autres paramètres. Cette fonctionnalité n'est pas encore disponible, mais Meta a annoncé qu'elle serait déployée dans les semaines à venir. Mais les améliorations ne s'arrêtent pas là. Messenger améliore enfin la qualité des photos en prenant en charge l'envoi d'images en haute définition. Il suffit de cocher la nouvelle option HD après avoir sélectionné une photo pour s'assurer qu'elle sera partagée dans une meilleure qualité au lieu d'être compressée. De plus, en ce qui concerne le partage de fichiers, Messenger prend désormais en charge le transfert de documents d'une taille maximale de 100 mégaoctets directement par l'intermédiaire des chats. Vous pouvez envoyer des documents Word, des PDF, des feuilles Excel et des fichiers ZIP en appuyant sur le bouton « Plus » et en sélectionnant les fichiers souhaité dans le stockage de votre appareil. Cette fonction devrait s'avérer particulièrement utile pour partager rapidement des fichiers volumineux qui nécessiteraient autrement une pièce jointe à un courrier électronique ou un service de stockage en nuage comme Dropbox. Pour plus besoin de télécharger une présentation volumineuse sur un site tiers juste pour l'envoyer à un collègue. Pour compléter les améliorations apportées aux médias, une nouvelle option très pratique permet de se connecter à des personnes sur Messenger en scannant simplement un code QR à l'aide de l'appareil photo. Plus besoin de chercher dans les contacts ou de copier de longues URL. Allez dans votre profil et cliquez sur l'icône en haut à gauche. Cela fait apparaître votre code QR personnel. L'autre personne peut scanner le code pour vous ajouter automatiquement en tant que contact. Elle peut également partager un lien en appuyant sur « Partager ». Bien qu'aucun de ces ajouts ne réinvente la roue, il comble certaines lacunes flagrantes qui ont retardé les capacités multimédia de Messenger par rapport à des applications comme WhatsApp. Les fonctionnalités commencent à être déployées à partir d'aujourd'hui sur les applications iOS et Android de Messenger. Une mise à jour vous attend donc peut-être sur l'App Store ou le Play Store ou devrait arriver au cours des prochains jours. Rappelons d'ailleurs que Messenger s'est récemment mis à jour pour chiffrer toutes vos conversations. Une excellente nouvelle pour les utilisateurs qui placent enfin l'application de messagerie au niveau de WhatsApp. Discord, vous en avez marre des publicités, hein? Ben voici comment les enlever. Depuis quelques mois, Discord a intégré un nouveau système de publicité sous forme de quêtes. Ces encarts proposent des récompenses en échange de la réalisation de certaines actions, comme regarder un ami streamer un jeu pendant un certain temps. Si ce concept peut en séduire certains, il en agace d'autres. Heureusement, il existe un moyen simple de se débarrasser de ces publicités, et ce, gratuitement, sans même souscrire à l'abonnement Nitro. Voici comment faire. Vous ouvrez Discord et cliquez sur l'icône en forme de roue dentée en bas à gauche pour accéder aux paramètres utilisateurs. Dans la colonne de gauche, sélectionnez « Confidentialité et sécurité ». Vous descendez dans la page et désactivez l'option « Récompense en jeu » alias « Quête ». En quelques clics seulement, les quêtes disparaîtront de votre interface Discord. Vous retrouverez ainsi une expérience utilisateur plus fluide et agréable. Sachez que si vous utilisez Discord sur un navigateur, la plupart des bloqueurs de publicité les enlèveront. Si vous changez d'avis et que vous souhaitez de nouveau afficher les quêtes, il vous suffit de réactiver l'option « Récompense en jeu » dans les paramètres. Pour le moment, le nombre de quêtes disponibles est limité. Elles concernent principalement des jeux vidéo et des services en ligne. Enfin, si vous êtes curieux de découvrir les quêtes disponibles, vous pouvez les retrouver à tout moment dans l'onglet « Inventaire des cadeaux » des paramètres utilisateurs. Discord est une plateforme gratuite qui compte aujourd'hui plus de 300 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. Si L'entreprise a longtemps pu se contenter des revenus générés par son abonnement Nitro. Il a récemment décidé de diversifier ses sources de revenus. Pour la plateforme, les publicités constituent un moyen efficace de générer des profits supplémentaires. Elles permettent à Discord de proposer ses services gratuitement à un large public tout en rémunérant les créateurs de contenu et en investissant dans le développement de la plateforme. Ce système semble fonctionner. D'après les chiffres de Discord, plus de 60% des utilisateurs ont déjà effectué une quête. Mais si elle vous ennuie, eh bien vous savez désormais comment les enlever. Le partage de contenu PS5 sur Twitter bientôt impossible. Le réseau social X essaie de se remettre tant bien que mal de l'ouragan Elon Musk. La plateforme qui a été rachetée par le milliardaire en 2022 pour 44 milliards de dollars a depuis été quittée par bon nombre d'entreprises. La cause a un changement de politique qui dérange les annonceurs ainsi qu'à des décisions étranges de la part du milliardaire sud-africain. Aujourd'hui, Sony vient d'annoncer qu'à partir de la semaine prochaine, les joueurs des consoles PlayStation 5 et 4 ne pourront plus partager de contenu de jeu sur le réseau social. L'intégration de X prendra donc fin sous peu, le 13 novembre plus exactement. Sony précise que cet abandon comprend le partage de contenu, mais aussi la possibilité de regarder du contenu venant de la plateforme. X peut donc dire au revoir aux screenshots et aux vidéos relatifs au gameplay et aux activités des joueurs provenant des machines du concepteur japonais. Cela concerne bien évidemment la prochaine PS5 Slim de Sony. Également. Sony n'a pas fait de commentaire concernant cette décision et n'a pas expliqué pourquoi celle-ci a été prise. Cette démarche fait écho à celle de Microsoft, qui avait elle aussi supprimé la possibilité de partager du contenu sur X, à la fois sur PC et Xbox, en avril dernier. C'est une décision importante de la part de Sony qui ferme donc la porte à l'un des réseaux sociaux les plus importants du marché. Avant le rachat. Cette volonté d'abandon de X par Sony peut s'expliquer par la politique prédatrice de la plateforme depuis son rachat. Pour rappel, le bouton Share des manettes DualSense, la PS5, actuelle, a été conçu avec le partage de contenu sur Twitter en tête. C'est donc une décision mûrement réfléchie de la part du géant nippon. Entre la démocratisation du contenu douteux et mensonger, en passant par la tarification de la vérification, le rachat par Elon Musk a fait de Twitter un réseau sociable très peu fiable. Il est donc normal que les annonceurs et les grosses entreprises quittent le navire. Netflix, ses téléviseurs ne sont plus compatibles. Si Netflix est le leader de la SVOD, la vidéo sur demande, c'est grâce à son catalogue constamment enrichi de nouveautés. La plateforme permet également une utilisation sur bon nombre d'appareils, parmi lesquels les téléviseurs. Sauf que plusieurs modèles ne sont plus pris en charge, alors que jusqu'à présent, c'était le cas. Les abonnés sont en colère. Et je cite, « Netflix n'est plus disponible sur cet appareil. Consultez la liste des appareils compatibles sur netflix.com/compatible-devices. » C'est un texte, pas un robot. C'est le message qu'Angélique, une utilisatrice belge, a découvert en allumant son téléviseur connecté. Là où l'abonné enrage, car l'entreprise lui a simplement expliqué qu'il fallait stopper son adhésion s'il n'était pas satisfaite quand même. Un bug de Netflix, eh bien non. La plateforme de streaming a actualisé sa liste des téléviseurs compatibles et plusieurs passent à la trappe. On parle des modèles plus anciens fabriqués avant 2014 par des constructeurs comme Samsung, Hitachi, LG, Panasonic, Sony, Philips. Quand même. Malheureusement, Netflix n'a pas publié la liste des téléviseurs qui ne sont plus compatibles. Pensez à mettre à jour l'application sur votre télé pour vérifier si la vôtre est toujours prise en charge. Si c'est le cas, deux solutions s'offrent à vous. Acheter un nouveau téléviseur compatible avec Netflix, la plus coûteuse des options, ou opter pour un boîtier multimédia ou un appareil comme le Chromecast de Google ou la Fire TV d'Amazon. Mais alors, pourquoi ces téléviseurs autrefois pris en charge sont-ils abandonnés? Eh bien, comme l'explique Alex Leguay au micro de RTL, professeur en cybersécurité, les équipes de Netflix ont raison, puisqu'il leur faut fournir un service sécurisé. Et pour cause, ces modèles utilisent un protocole de sécurité trop ancien, appelé SSL. V3. L'expert précise que, je le cite, « Si on apprend demain que vos données ont été volées parce que moi, pirate, j'ai exploité le fait que Netflix ne mette pas à jour son protocole SSL, ce serait le pire que de se mettre à dos certains utilisateurs. » Ouais, à raison, l'entreprise préfère quelques abonnés frustrés qu'à être dans le pétrin, car son application aura permis de mener des attaques informatiques. Mais vous savez, les constructeurs de télé intelligente, il n'y a pas juste des attaques de pirates informatiques pour collecter des données, hein? Vous le savez bien, hein? X, Elon Musk va obliger les abonnés à afficher leur badge bleu. Elon Musk opère de multiples changements depuis qu'il a pris tête de X, au-delà de modifier le nom du réseau social anciennement appelé Twitter. Le milliardaire a introduit des abonnements payants et modifié la politique de certification des comptes. Les utilisateurs peuvent désormais payer pour obtenir certains avantages, dont le fameux badge bleu, qui est valorisé sur X sans être obligé de l'afficher. Eh bien, cela va bientôt changer puisque la plateforme va imposer aux utilisateurs d'afficher la coche sur leur compte. Surprise! Depuis quelques heures, certains comptes reçoivent une notification leur indiquant que l'option premium de X pour cacher la batch ne sera bientôt plus disponible, et ce, même si vous payez, chers clients. Rappelons qu'à son arrivée à la tête de la plateforme, Elon Musk avait modifié le système d'obtention. Auparavant, seuls les comptes populaires comme ceux des personnalités, des entreprises ou des institutions pouvaient l'obtenir. Dorénavant, tous les abonnés à la version premium de X peuvent l'afficher. Cependant, la mesure est si impopulaire que certaines personnes préfèrent cacher qu'elles possèdent un abonnement à la version payante du réseau social. Oh là là! Avec cette mesure, Elon Musk cherche peut-être à prouver que la formule est plus populaire qu'elle n'y paraît. Pour l'heure, difficile de savoir quand ce changement s'appliquera sur la plateforme. Ça ne devrait certainement pas tarder, étant donné la vitesse à laquelle Elon Musk met en place les évolutions qu'il évoque même parfois sur son propre compte X. Cette fois-ci, ce sont plutôt les abonnés à la version premium du réseau social qui devraient râler, et non les opérateurs les plus vindicatifs du milliardaire. Petite parenthèse, moi, ce que je propose pour les nouveaux réseaux sociaux, nouvelles applications, quand vous faites payer les clients, okay, pour un service, okay, quand c'est gratuit, c'est correct, vous faites ce que vous voulez. Mais quand vous les faites payer, faites un petit sondage pour savoir si c'est OK ou pas OK, juste pour les faire sentir un petit peu impliqués. Je ne sais pas, je dis ça comme ça. Tesla va licencier au moins 14 000 employés. La semaine commence bien mal pour Tesla. D'après un mémo interne d'Elon Musk en fuite dans la presse US, le constructeur automobile s'apprête à supprimer plus de 10 % de ses effectifs dans le monde. L'entreprise dénombrait 140 000 employés en fin d'année dernière. Alors, le nombre de licenciements serait donc d'au moins 14 000. Le patron de Tesla explique qu'au fil des années, je le cite, « il y a eu une duplication des rôles et des fonctions au sein de certaines zones. Il est extrêmement important d'examiner chaque aspect de l'entreprise pour réduire les coûts et augmenter la productivité. » Selon les rumeurs entendues par le site Electrek, la direction de Tesla aurait envisagé un coup de hache de plus grande ampleur encore qui aurait touché 20 % des effectifs du groupe. Au premier trimestre, les livraisons de Tesla ont connu une baisse importante, la première en 4 ans. Plus inquiétant encore, la marge brute de l'entreprise s'est établie à 17,6 % durant la même période, la plus faible là aussi en 4 ans, le résultat des baisses de prix pratiquées pour vider les stocks. Le constructeur automobile qui a longtemps dynamisé le marché semble jouer à la défensive contre la concurrence chinoise d'une part et de plus en plus contre les rivaux européens et américains, en fait en ordre de bataille dans l'électrique. La stratégie de l'entreprise sur l'entrée de gamme n'est pas non plus très claire, avec le projet de modèle 2 abordable qui serait remplacé par des robots taxis. Des chercheurs créent un liquide intelligent. Des chercheurs de la prestigieuse Université d'Harvard ont récemment présenté un tout nouveau matériel fascinant et potentiellement révolutionnaire, un métafluide qui peut être programmé pour en modifier les propriétés. Ce liquide appartient à la famille des métamatériaux. Ce terme désigne une classe de substances artificielles très particulière. En général, les propriétés d'un matériau, la dureté, la conductivité, dépendent surtout de sa composition. Les métamatériaux, en revanche, dérogent à cette règle, car les types d'atomes et de molécules qui les composent ne jouent qu'un rôle assez limitée. Ils tirent surtout leurs propriétés de leur structure. Cette particularité vient du fait qu'ils sont composés d'un grand nombre de particules microscopiques dont la taille, la forme et la disposition peuvent être manipulées par divers moyens et notamment par l'intermédiaire d'ondes acoustiques ou électromagnétiques. Mais aussi, intéressant soit-il, la plupart de ces métamatériaux souffrent aussi d'une limite significative. À quelques exceptions près, ils sont tous solides. Or, la plupart des chercheurs en sciences des matériaux s'accordent à dire que pour exploiter tout le potentiel de ces substances, il faudrait réussir à créer des métamatériaux liquides. Et c'est précisément ce que l'équipe d'Harvard a réussi à faire avec son métafluide. Et je cite, contrairement aux métamatériaux solides, les métafluides ont la capacité de s'écouler et de s'adapter à la forme de leur contenant. Notre objectif était de créer un métafluide qui possède non seulement ses attributs remarquables, mais qui offre également une façon de programmer sa viscosité, sa compressibilité et ses propriétés optiques, expliquent des auteurs de l'étude. Pour arriver à ce résultat, ils sont partis d'une huile de silicium dans laquelle ils ont suspendu des centaines de milliers de minuscules capsules d'élastomères sphériques remplies d'air qui peuvent se déformer à loisir et de façon entièrement réversible. Lorsque la pression dans le liquide augmente, la capsule s'effondre sur elle-même et adopte une forme qui ressemble vaguement à celle d'une lentille et vice-versa lorsque la pression remonte. À notre échelle, cette transition change complètement les propriétés du liquide, à commencer par son opacité. Lorsque les capsules sont rondes, elles diffusent fortement la lumière, ce qui rend le liquide quasiment opaque. Mais après avoir changé de forme, elles concentrent ses rayons, rendant ainsi le liquide plus transparent. Et pour couronner le tout, en ajustant la taille, l'épaisseur et la concentration des capsules, eh bien on peut facilement arriver à des tas de combinaisons différentes. Encore plus intéressant, la transformation influe aussi sur la viscosité. Lorsque les capsules sont rondes, le métafluide se comporte comme un liquide, tout ce qu'il y a de plus classique. En revanche, dans l'autre configuration, il présente des propriétés qu'on associe généralement aux fluides dits complexes. Pour montrer l'intérêt de leur concept, les chercheurs ont conçu une expérience basée sur un bras robotique hydraulique rempli de ce métafluide. L'objectif était de réussir à saisir trois objets très différents, une bouteille en verre assez lourde, un œuf et une myrtille. Un bleuet, avec le même appareil. Mais la démonstration prouve qu'il pourrait servir dans des systèmes hydrauliques polyvalents, mais à terme, des tas d'autres applications vont sans doute émerger dans des domaines comme l'optique. Il sera très intéressant de voir dans quel domaine ce genre de matériaux sera utilisé à l'avenir. Alors, j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Si vous avez des suggestions d'actualité, des commentaires, vous voulez m'envoyer un message audio ou simplement me payer un café, eh bien, c'est très simple. Vous trouverez tous les liens sur linktr.ee/audiophile. Il y a même une section nommée Docu, le rendez-vous tech d'audiophile intégral, avec l'ensemble des références web ou liens URL. Et je vous remercie de m'avoir prêté vos oreilles pendant l'écoute de cet épisode. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Oh là là, une autre semaine de difficile. Vous savez ce que ça veut dire, hein? Difficile, hein? Quand je vous dis ça. Hein? C'est... Des fois, l'enregistrement ne se fait pas de façon fluide. La fluidité laisse à désirer, comme on dit. Oh là là, il ne faudrait pas que je fasse une émission. Il faudrait peut-être que j'en fasse une, mais une émission de bloopers, ça serait un petit peu répétitif. Et ça risque de durer quelques heures. Allez, j'espère quand même que vous avez apprécié le contenu, hein? Parce que vous êtes aperçu de rien. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde!